La guérison divine, par la foi en Jésus-Christ. Frédéric Francis Bosworth. Édition Parole de vie www.paroledevie.org. Édition Parole de vie 1993. Tous droits réservés. Traduction française utilisée avec l'accord des éditions Parole de vie. Traduit de l'américain et légèrement condensé par Henri Viomura. Titre original.
Christ the Healer.
Première publication en 1924 aux USA. Le lecteur trouvera un aperçu très intéressant de la biographie et de l'œuvre de Frédéric Francis Bosworth dans le livre de Robert Tom, édité aux éditions Vida et intitulé « Le vin nouveau et meilleur ». Table des matières. Préface. Pour ceux qui ont besoin de guérison. Jésus nous a-t-il rachetés de nos maladies? La guérison est-elle pour tous? La compassion du Seigneur? Comment saisir la guérison? La foi vivante. La confession de notre foi? Le chant de Dieu. Pourquoi certains ne sont-ils pas guéris? Les chardes de Paul. Témoignage. Préface de la 7e édition de 1948. En publiant en 1924 la première édition de ce livre, nous n'aurions jamais rêvé que les vérités présentées dans cet ouvrage allaient bénir des foules aussi nombreuses, dans tant de pays du monde. Tout au long de ces années, les fruits portés par ces messages ont été une démonstration de la vérité de cette déclaration inspirée, dans Éphésiens 3, 20, que Dieu peut faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Au cours des 24 années qui suivirent, 5 autres éditions importantes ont été imprimées et lues par des milliers de pasteurs et de chrétiens qui nous ont écrit pour nous dire à quel point ils avaient été éclairés, bénis, dans leur âme et dans leur corps, par la lecture répétée de ces messages. Nous nous sommes efforcés d'employer un vocabulaire à la portée de tout le monde. Nous avons reçu un flot continuel de témoignages de la part de ceux qui avaient été convertis et miraculeusement guéris par la foi qu'ils ont eux-mêmes reçue en lisant et méditant les vérités bibliques que nous avons tenté d'expliquer clairement. Nous avons prouvé des milliers de fois, et nous continuons à le prouver, que la simple présentation de la parole de Dieu écrite à l'intelligence et au cœur de ceux qui sont affligés de maladies incurables suffit à les conduire à une pleine assurance, à la fois pour ce qui concerne la guérison de leur corps et pour ce qui concerne la guérison de leur âme. Nous sommes donc de plus en plus émerveillés d'avoir le privilège de planter là, semence incorruptible, la parole de Dieu, dans le cœur de ceux pour lesquels Jésus est mort. Quelle glorieuse réalité, pour chacun de nous, que d'avoir été racheté à grand prix, pour que nous devenions le jardin du Seigneur, dans lequel sa semence impérissable, la parole de Dieu, doit être continuellement plantée, arrosée et cultivée, pour qu'elle produise ses prodiges présents et éternels. Il y a dans cette semence divine des possibilités que l'intelligence humaine ne peut pas concevoir, de même qu'il y a dans une toute petite semence, à l'état potentiel, un arbre qui est un million de fois plus grand que la semence. Si nous continuons à planter ces semences dans le jardin de Dieu, comme un fermier le fait pour son champ, nous pourrons accomplir, en tant qu'enfants de Dieu, des choses mille fois plus grandes que celles qu'accomplissent les hommes, avec leur talent humain, parce que Dieu accomplira ses promesses. Nous avons également découvert que ceux qui avaient pu lire nos messages sur la guérison divine étaient parvenus à en avoir une compréhension beaucoup plus complète que ceux qui avaient eu l'occasion de m'entendre prêcher dans une réunion publique. Lorsque ces messages écrits avaient pu être fréquemment relus et étudiés par ceux pour lesquels nous avons prié par la suite, nous avons eu la preuve qu'ils produisaient de bien meilleurs résultats dans leur âme et leur corps que dans le cas de personnes qui désiraient que l'on prie pour elles sans qu'elles aient suffisamment entendu la parole de Dieu pour avoir la foi. Nous lançons donc cette 7e édition en priant de tout cœur pour que des milliers d'autres personnes puissent savoir comment saisir les nombreuses bénédictions promises dans la Bible. Nous désirons que chacun de vous imite ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses, Hébreux 6, 11,12. Miami, Floride, le 5 mai 1948, Frédéric Francis Bosworth. Chapitre 1 pour ceux qui ont besoin de guérison. Avant que l'on puisse avoir une foi ferme, pour la guérison de notre corps, nous devons nous débarrasser de toute incertitude concernant la volonté de Dieu dans ce domaine. Une foi vivante ne peut pas aller au-delà de notre connaissance de la volonté révélée de Dieu. Avant de tenter de mettre notre foi en action pour obtenir une guérison, Il nous faut connaître ce que les Écritures enseignent à ce sujet, à savoir que c'est tout autant la volonté de Dieu de guérir le corps que de sauver l'âme. Les messages de ce livre expliquent et mettent l'accent sur les passages de l'Écriture qui vous convaincront définitivement de cette vérité. Ce n'est que lorsque vous savez que Dieu promet ce que vous recherchez que toute incertitude peut être enlevée et qu'une foi ferme devient possible. Chaque promesse de Dieu est une révélation de ce que Dieu est vivement désireux de faire pour nous. Tant que nous ne connaissons pas la volonté de Dieu, nous n'avons rien sur quoi appuyer notre foi. Il est important que l'intelligence de ceux qui recherchent la guérison soit renouvelée afin d'être mise en harmonie avec la pensée de Dieu révélée dans la Bible telle que nous la présentons dans ces pages. La foi qui nous permet de saisir les bénédictions promises par Dieu nous est donnée lorsque nous connaissons et agissons selon la parole de Dieu Romains 10, 17. Une attitude mentale correcte, c'est-à-dire une intelligence renouvelée, Romains 12, 2, nous permet à tous d'avoir une foi ferme. Nous recevons constamment le témoignage de personnes pour lesquelles on avait souvent prié, mais sans succès, et qui ont été merveilleusement guéries en lisant ce livre. De nombreuses personnes se sont également converties en lisant ces messages. Page 7. Vous seriez étonné si vous pouviez voir le flot continuel de témoignages que nous recevons de tout le pays. Au cours des quelques années passées, nous avons reçu plus de 225 000 lettres écrites par les auditeurs de nos émissions de radio et par leurs amis que, pour la plupart, nous n'avons jamais connus. La parole est une semence. Jésus dit que la parole est une semence. C'est une semence de la vie divine. Si vous cherchez la guérison, et si vous n'êtes pas convaincu par la parole de Dieu que c'est la volonté de Dieu de vous guérir, c'est comme si vous tentiez d'obtenir une récolte alors qu'aucune semence n'a été plantée. Il serait impossible à un fermier de croire qu'il va obtenir une récolte tant qu'il n'est pas certain que la semence a bien été plantée. Dieu ne veut pas que l'on obtienne une récolte sans avoir d'abord planté la semence, c'est-à-dire sans que l'on connaisse sa volonté et qu'on agisse selon sa volonté. Jésus a dit, « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. » L'affranchissement de la maladie vient quand on a connu la vérité. Dieu ne fait jamais rien en dehors de sa parole. Il envoya sa parole et il guérit, psaume 107, 20. Ce sont des paroles prononcées par le Saint-Esprit. Toutes les œuvres de Dieu sont faites dans la fidélité à ses promesses. Si vous êtes malade et que vous savez personnellement que c'est la volonté de Dieu de vous guérir, c'est comme si une semence était plantée dans vos pensées et votre cœur. Elle n'est pas plantée tant qu'elle n'est pas connue et reçue dans la foi. Aucun pécheur ne peut devenir chrétien avant d'avoir su que c'est la volonté de Dieu de le sauver. C'est la parole de Dieu, plantée, arrosée et gardée fermement dans la foi, qui guérit l'âme et le corps. Cette semence doit rester plantée et il faut continuer à l'arroser jusqu'à ce qu'elle produise la récolte attendue. Si vous dites « Je crois que le Seigneur est capable de me guérir » sans savoir, par la parole de Dieu, qu'il veut vous guérir personnellement, c'est comme si un fermier disait « Je crois que Dieu est capable de me donner une récolte » sans avoir planté ni arrosé la semence. Dieu ne peut pas sauver l'âme d'un homme sans que cette... Page 8. Homme ait d'abord connu la volonté de Dieu dans ce domaine. En effet, on est sauvé par la foi en faisant confiance à la volonté révélée de Dieu. La guérison, c'est le salut du corps. Quand vous priez pour la guérison, en utilisant ces paroles mortelles pour la foi, si c'est ta volonté, Seigneur, vous ne plantez pas la semence, mais vous la détruisez. La prière de la foi qui guérit le malade doit suivre et non précéder l'introduction de la semence, la parole qui seule peut soutenir la foi. Le Saint-Esprit dit de l'Évangile que c'est une puissance de Dieu pour le salut dans tous ses aspects physiques et spirituels. Tout l'Évangile est pour toute créature et pour toutes les nations. L'Évangile ne nous laisse pas dans l'incertitude pour prier avec un « si c'est ta volonté ». L'Évangile nous montre quelle est la volonté de Dieu. Ces paroles du Saint-Esprit, « Il s'est chargé de nos maladies », Matthieu 8, 17, font partie de l'Évangile, au même titre que ces paroles, « Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois », 1 Pierre 2, 24. Les promesses de l'Évangile, qu'elles soient pour l'esprit ou pour le corps, ne peuvent être reçues par la seule prière. La semence est impuissante, tant qu'elle n'est pas plantée. Beaucoup, au lieu de dire « Prie pour moi », devraient d'abord dire « Enseigne-moi la parole de Dieu », afin que je puisse coopérer intelligemment avec lui pour ma guérison. Nous devons savoir quels sont les bénéfices que nous apporte le calvaire avant de pouvoir nous en saisir par la foi. David dit bien, lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. Lorsque nous avons été suffisamment éclairés, notre attitude envers la maladie devrait être la même que notre attitude envers le péché. Notre détermination à voir notre corps guéri devrait être aussi ferme que notre détermination à voir notre âme guérie. Le fait que Christ ait porté sur lui nos péchés et nos maladies est certainement une raison valable pour lui faire confiance maintenant pour être délivré de ces choses. Lorsque nous nous en remettons résolument à Dieu dans la prière, pour être pardonnés de nos péchés, nous devons croire, par l'autorité de sa parole, que, page 9, notre prière a été entendue. Nous devons faire de même, lorsque nous prions pour la guérison. Après avoir été suffisamment éclairés par les promesses de Dieu, et en croyant simplement que notre prière a été entendue, avant même que nous puissions voir la réponse, comme Jésus nous l'a commandé dans Marc 11, 24, puis en mettant en pratique Hébreux 10, 35-36, nous pouvons toujours voir s'accomplir n'importe quelle promesse de Dieu. C'est la volonté de Dieu que chaque chrétien pratique avec succès Hébreux 6, 11-12. Entre le moment où nous avons résolument remis à Dieu la guérison de notre corps et celui de la manifestation complète de notre guérison, nous pouvons et nous devons apprendre l'une des leçons les plus précieuses de notre vie chrétienne. Cette leçon consiste à pratiquer ce qui est enseigné dans Hébreux 6, 36. Seules les promesses de Dieu peuvent affermir notre foi. Lorsque Jonas eut prié pour obtenir miséricorde, il n'abandonna pas sa confiance parce qu'il n'avait encore aucune preuve visible que sa prière avait été exaucée. Non, il demeura ferme dans sa confiance et il ajouta même, à l'avance, un sacrifice d'action de grâce Jonas 2, 9. Dans Hébreux 13, 15, le Saint-Esprit nous commande de tous faire cela continuellement. Les promesses de Dieu produisent leurs prodiges lorsque nous contemplons les réalités éternelles, ses promesses, sa fidélité, etc., lorsque nous les pratiquons et refusons d'être troublés par les choses temporelles qui leur semblent contraires. Dieu accomplit toujours ses promesses lorsqu'il peut obtenir de nous une juste coopération. Il nous accepte toujours et il œuvre toujours en notre faveur lorsque nous observons Marc 11, 24 et Hébreux 10, 35-36. « Je le rassasirai de longs jours » est une promesse de Dieu dont nous pouvons tous nous saisir, psaume 91, 16. Des instructions complètes au chapitre 4 des Proverbes, du verset 20 au verset 22, nous trouvons les instructions les plus complètes concernant la manière de recevoir la guérison. Page 10. « Mon fils, sois attentif à mes paroles, prête l'oreille à mes discours. Qu'il ne s'éloigne pas de tes yeux. » Garde-les dans le fond de ton cœur. Car c'est la vie pour ceux qui les trouvent, c'est la santé pour tout leur corps. La parole de Dieu ne peut pas être santé pour notre âme ou notre corps si elle n'est pas d'abord entendue, reçue et considérée attentivement. Remarquez qu'il est dit ici que la parole de Dieu n'est vie que pour ceux-là seuls qui la trouvent. Si vous voulez recevoir la vie et la guérison de Dieu, prenez le temps de trouver les paroles de l'Écriture qui promettent de tels résultats. Quand la parole de Dieu devient santé pour tout votre corps, votre cancer disparaît, votre tumeur s'en va, votre goitre fond. Nous avons vu la parole produire ses résultats des milliers de fois lorsqu'elle est reçue et mise en pratique. Des milliers de personnes ne sont pas en bonne santé aujourd'hui parce qu'elles n'ont pas réussi à trouver les paroles de Dieu qui produisent la guérison. C'est la méthode divine qui nous permet de recevoir les bénédictions que Dieu a prévues pour nous. Beaucoup n'ont pas pu recevoir leur guérison, tout simplement parce qu'ils n'ont pas suivi cette méthode. Dieu dit que lorsque nous faisons ce qu'il nous dit dans l'Écriture, ses paroles deviennent santé pour tout notre corps. De quel corps s'agit-il? Du corps de ceux qui ont trouvé et considéré attentivement les paroles de Dieu qui parlent de ce sujet. C'est exactement de la même manière que la parole de Dieu devient santé pour notre âme. On ne peut pas regarder dans deux directions différentes. En même temps, dans ce passage très détaillé, Dieu nous dit exactement comment être attentif à ses paroles. Il dit qu'elles ne s'éloignent pas de tes yeux. Garde-les dans le fond de ton cœur. Au lieu de garder nos yeux fixés sur nos symptômes et d'être préoccupés par eux, que notre regard ne s'éloigne pas des paroles de Dieu. c'est-à-dire que nous devons continuellement regarder ses paroles et, comme Abraham, être fortifiés par la foi en ne considérant que les promesses de Dieu et rien d'autre. De même qu'une semence ne peut, page 11, accomplir son œuvre que si elle demeure dans le sol, ainsi, la semence incorruptible de Dieu ne peut agir efficacement en nous que si elle est gardée dans le fond de notre cœur. Cela ne veut pas dire de temps en temps, mais continuellement. Beaucoup ont échoué parce qu'ils n'ont pas réussi à faire cela. Nous devons faire comme les fermiers, lorsque nous sommes attentifs aux paroles de Dieu, en ne les éloignant pas de nos yeux et en les gardant dans le fond de notre cœur, la semence est alors dans une bonne terre, dont Jésus a dit qu'elle portait du fruit et dont Paul dit qu'elle travaille puissamment. Une fois que le fermier a planté sa semence, il ne la déterre pas chaque jour pour voir comment elle va, mais il dit « Je suis heureux que ce soit fait » et il croit que la semence a commencé son œuvre. Pourquoi ne pas avoir la même foi en cette semence incorruptible, la parole de Christ, dont il a dit qu'elle est esprit et vie, et ne pas croire qu'elle est déjà en train d'accomplir son œuvre sans attendre de voir. Si un fermier, qui ne bénéficie d'aucune promesse précise, peut avoir foi dans la nature, pourquoi le chrétien ne pourrait-il pas avoir foi dans le Dieu de la nature? Le psalmiste dit « Ta parole m'a rendu la vie ». Paul nous dit que c'est la parole qui travaille puissamment dans la vie de ceux qui croient. Chaque parole de Dieu est « esprit et vie » et travaillera en nous si nous la recevons et si nous y prêtons attention. Lorsque nous recevons la parole de Dieu et que nous lui obéissons, nous pouvons dire avec Paul « La puissance de Dieu travaille puissamment en moi ». Ainsi, la parole de Dieu devient la puissance de Dieu. Elle est « esprit et vie ». Si le champ dans lequel la semence a été plantée pouvait nous parler, il dirait « La semence travaille puissamment en moi ». Trois choses essentielles. Ce passage des Proverbes nous décrit quelle est la méthode du Seigneur pour obtenir les promesses de la parole de Dieu. Page 12. 1. Nous devons avoir une oreille attentive, prête l'oreille à mes discours. 2. Nous devons avoir des yeux fermement fixés, qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux. 3. Nous devons avoir un cœur qui les garde au plus profond de lui-même, garde-les dans le fond de ton cœur. Lorsque vos yeux sont fixés sur vos symptômes et lorsque vos pensées sont plus occupées par ces symptômes que par la parole de Dieu, vous avez planté dans votre terrain une mauvaise semence qui ne produira pas la récolte désirée. Vous avez planté dans votre champ des semences de doute. Vous essayez d'obtenir une certaine récolte en utilisant des graines étrangères. Il est impossible de semer des mauvaises herbes pour récolter du blé. Peut-être que vos symptômes annoncent la mort, mais la parole de Dieu vous annonce la vie, et vous ne pouvez pas regarder en même temps dans deux directions opposées. Quelle sorte de semence avez-vous planté? Quelle sorte de semence avez-vous dans votre champ? Que les paroles de Dieu ne s'éloignent pas de tes yeux. Garde-les dans le fond de ton cœur. C'est-à-dire, garde les yeux continuellement fixés sur la seule preuve que Dieu te donne pour ta foi. Dieu dit à tous les incurables, en parlant du serpent d'airain, « Quiconque le regardera, conservera la vie » Nombre 21, 8. Le verbe « regarder » est ici au temps présent continuel. Il ne signifie pas « jeter un simple coup d'œil », mais il veut dire que ses paroles ne s'éloignent pas de tes yeux. Garde-les dans le fond de ton cœur. Les motifs qui retiennent notre attention sont extrêmement puissants. C'est notre Père Céleste qui parle. Le ciel tout entier se tient derrière ces paroles. Ces choses qui nous sont dites possèdent une vertu vivifiante et revigorante. Ces paroles sont vie pour tous ceux qui les trouvent, et santé non seulement pour l'âme, mais pour le corps. Non seulement pour une certaine partie du corps, mais pour tout le corps. Page 13. Lorsqu'un inventeur découvre un médicament capable de guérir un seul membre du corps, il peut faire fortune. Mais nous avons ici un médicament pour tout le corps, de la tête aux pieds. Nous avons un médecin, dont la compétence est infinie, qui guérit toutes nos maladies. La démonstration des choses qu'on ne voit pas, après avoir planté votre semence, vous croyez qu'elle est en train de pousser, avant même que vous puissiez la voir grandir. C'est la foi qui est là, démonstration des choses que l'on ne voit pas. En Christ, vous possédez une démonstration parfaite pour votre foi? Tout homme ou toute femme peut être complètement débarrassé de ses doutes en regardant, uniquement et fermement la seule preuve que Dieu nous ait donnée pour notre foi. La foi n'est grandie quand on ne considère que ce que Dieu dit. Il nous sera alors plus facile de croire que de douter. Car les preuves sur lesquelles peut s'appuyer notre foi sont bien plus fortes que celles qui peuvent alimenter nos doutes. Ne doutez pas de votre foi, mais doutez de vos doutes, car vous ne pouvez leur faire confiance. Oh ! Quelle bénédiction nous recevons lorsque nous regardons à Christ avec foi ! Nous trouvons vie, lumière, liberté, amour, joie, conseil, sagesse, compréhension, santé parfaite, toutes choses en réalité, lorsque nous fixons nos regards sur le crucifié. Personne n'attache jamais en vain son regard sur le grand médecin. Tous ceux qui regardaient le serpent d'airain, qui était un type de Christ, conservaient la vie. Et leur visage ne se couvrait pas de honte, dit le psalmiste. Humainement parlant, ils étaient tous incurables, mais ils furent à la fois pardonnés et guéris en portant leur regard sur le serpent d'airain. Celui qui place sa confiance en Christ n'aura pas à rougir de l'avoir fait. Le temps et l'éternité lui prouveront qu'il a eu raison d'avoir confiance. Ce livre montrera à ceux qui ont besoin d'être guéris quel passage de la parole de Dieu ils devront recevoir et considérer avec attention. Certains ont été miraculeusement guéris en lisant le chapitre suivant. Page 14. Chapitre 2. Jésus nous a-t-il rachetés de nos maladies ? Note à l'attention du lecteur, si l'on vous a enseigné à regarder la maladie comme une écharde dans la chair que vous devez garder, nous vous exhortons vivement à lire tout d'abord le chapitre intitulé « L'écharde de Paul » avant de lire tout autre chapitre. Sinon, vous ne pourrez probablement pas saisir la puissance des arguments scripturaires présentés dans les autres chapitres de ce livre. Avant de répondre à la question posée ci-dessus, j'attire votre attention sur quelques vérités enseignées dans l'Écriture sur ce sujet. Les Écritures déclarent, dans Romains 5, 12, que, par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort. Il est ici clairement établi que la mort est entrée dans le monde par le péché. Il est donc clair que la maladie, qui est l'antichambre de la mort, est aussi entrée dans le monde par le péché. Ainsi, puisque la maladie est entrée par le péché, son véritable remède doit être trouvé dans la rédemption accomplie par Christ. Puisque le diable est celui qui oppresse Actes 10, 38, quelle puissance peut le chasser quand la nature ne peut plus agir, sinon la puissance du Fils de Dieu ? Si la maladie progresse jusqu'au stade où la nature ne peut plus rien pour nous guérir, il en résultera une mort certaine, à moins qu'elle ne soit ôtée par la puissance de Dieu. Tout médecin honnête admettra cela, car les médecins ne prétendent pas guérir, mais seulement aider la nature ? Ainsi, lorsque Dieu veut agir pour suppléer à la nature défaillante, tout ce qui bloquera sa puissance rendra la guérison impossible. C'est pourquoi Jacques dit « Confessez vos péchés les uns aux autres, afin que vous soyez guéris ». Cela signifie que si vous ne les confessez pas, vous ne pouvez pas être guéris. Page 15. Lorsque la maladie a progressé au-delà des limites de l'action de la nature, ni la nature, ni les médecins, ni même la prière, ne peuvent guérir le malade s'il ne confesse pas ses péchés. À moins que Dieu, pour une raison dont il reste souverain, n'enlève la maladie. Puisque la maladie fait partie de la malédiction, son véritable remède doit être trouvé à la croix. Car qui peut ôter la malédiction, si ce n'est Dieu, et comment Dieu pourrait-il le faire d'une manière juste, sinon par la substitution de Christ ? La Bible enseigne, ainsi que l'a dit quelqu'un, que la maladie est le châtiment physique de l'iniquité, mais que Christ a porté dans son corps toutes les conséquences physiques de nos péchés, et que notre corps est donc juridiquement libéré de la maladie. Par la rédemption de Christ, nous pouvons tous obtenir, comme une partie des prémices de notre héritage, la vie de Jésus, manifestée dans notre chair mortelle, pour prendre le relais de la nature, jusqu'à ce que notre œuvre soit achevée. De même que nous pouvons recevoir les prémices de notre salut spirituel, nous pouvons aussi recevoir les prémices de notre salut physique. Revenons à présent à la question posée. Jésus nous a-t-il rachetés de nos maladies lorsqu'il a expié nos péchés ? Si, comme certains l'enseignent, la guérison n'est pas comprise dans l'expiation accomplie par Jésus-Christ, pourquoi voyons-nous dans tout l'Ancien Testament des types d'expiation accompagner la guérison du corps ? Dans Exode 12, pourquoi a-t-il demandé aux Israélites de manger l'agneau de la Pâque pour avoir de la force physique, si ce n'est pour que nous puissions recevoir la vie et la force dans notre corps, par Christ, qui est notre Pâque, comme le dit l'apôtre Paul ? 735 années après l'institution de la Pâque, nous lisons dans 2 Chroniques 30, 20 traductions du texte original, l'Éternel exauça Échia et il guérit le peuple lorsqu'ils eurent rétabli la Pâque. C'est pourquoi Paul, dans 1 Corinthiens 11, 30, dit aux Corinthiens que c'est parce qu'ils n'ont pas su discerner le corps de Christ, notre Pâque, qu'il y avait parmi eux beaucoup d'infirmes et de malades. Page 16. La Sainte Cène n'est plus qu'une ordonnance parce qu'il nous est possible de communier à Christ lorsque nous partageons les symboles de sa mort et les bénédictions que cette mort nous a acquises. En Christ, nous trouvons la vie, pour notre corps comme pour notre esprit, et il n'y a certainement pas de meilleure occasion pour nous prévaloir du privilège d'avoir la vie de Jésus, manifestée dans notre chair mortelle, 2 Corinthiens 4, 11. La guérison telle qu'elle est enseignée dans l'Ancien Testament, dans Lévitique 14, 18, nous voyons le sacrificateur accomplir l'expiation pour la purification du lépreux. Pourquoi faudrait-il une expiation pour la guérison de la lèpre si la guérison ne nous était pas acquise dans l'expiation accomplie par Christ? Les modèles qui nous sont présentés dans les chapitres 14 et 15 du Lévitique nous montrent que la maladie était invariablement guérie au travers d'une expiation. Même si nous ne devions pas aller plus loin dans notre message, ceci devrait répondre parfaitement à la question que nous avons posée parce que toutes ces expiations annoncent et préfigurent le calvaire. Jésus nous dit, dans Luc 4, 19, qu'il a été oint pour publier une année de grâce du Seigneur. Il faisait référence à l'année du jubilé, dans l'Ancien Testament. Lévitique 25, 9 nous montre que les bénédictions de l'année du jubilé devaient être annoncées au son de la trompette, le jour des expiations. Ce jour-là, un bélier était offert en sacrifice comme expiation pour le péché, et le propitiatoire était aspergé de sang. Aucune bénédiction n'était accordée tant que le sang de l'expiation n'avait pas été répandu sur le propitiatoire. Le trône de miséricorde serait alors devenu un trône de jugement si le propitiatoire n'avait pas été aspergé de sang. Ceci nous enseigne que nous ne pouvons recevoir aucune miséricorde ni aucune bénédiction de l'Évangile si ce n'est par l'expiation de Christ. Page 17. La restitution de tout ce qui a été perdu par la chute. Nous avons tout perdu. Jésus nous a tout restitué par son expiation. C'est le jour des expiations que Dieu a dit, « Chacun de vous retournera dans sa propriété ». De même, nous devons aujourd'hui respecter l'ordre suivant, tout d'abord, le calvaire, et ensuite la trompette de l'Évangile, pour proclamer à toute créature qu'il s'est chargé de nos péchés et de nos maladies, en nous montrant par là que chacun peut à présent retourner dans sa propriété. L'un des 7 noms rédempteurs de Dieu est Yahweh Rapha, « Je suis l'Éternel qui te guérit ». Ceci nous montre à quel bienfait perdu tout homme peut retourner dans notre dispensation. Dans notre ère de l'Évangile, les 2 possessions essentielles qui nous sont restituées sont la santé pour notre âme et pour notre corps. C'est pourquoi le pardon et la guérison étaient universellement offerts partout où Christ a proclamé l'année de grâce du Seigneur, afin que l'homme intérieur, comme l'homme extérieur, soit en bonne santé, prêt à servir le Seigneur et prêt à accomplir toute bonne œuvre, jusqu'à la fin de leur course terrestre. Certains chrétiens fondamentalistes reprochent à la science chrétienne de croire que l'on puisse être sauvé sans passer par le calvaire. Ils commettent pourtant la même erreur, croire en la guérison, mais sans croire qu'elle peut être reçue sans passer par le calvaire. C'est pour moi un mystère que quelqu'un puisse dire que le sang de Jésus n'avait pas besoin d'être versé pour l'être efficace, alors que tous les sacrifices de sang de l'Ancien Testament proclament le contraire, de même que ce verset selon lequel, sans effusion de sang il n'y a pas de rémission de péché. Adopter une religion d'où le sang est exclu, c'est adopter une religion d'idées, une construction humaine qui peut satisfaire l'homme. Mais personne ne connaîtra cette joie indicible et pleine de gloire que connaissent ceux qui ont été sauvés par le sang de Christ. C'est pour moi un grand mystère de voir ces chrétiens fondamentalistes proclamer que la guérison peut nous être donnée sans faire aucune référence à la mort de Christ. L'Écriture ignore complètement un salut qui serait, page 18, accordé sans sacrifice, quelle que soit la partie de notre être concernée. Si la guérison du corps doit être offerte et prêchée sans faire référence au calvaire, pourquoi fallait-il attendre le jour des expiations pour que la trompette annonce les bénédictions de l'année du jubilé? Paul dit que c'est en lui que toutes les promesses de Dieu sont oui et amen. ce qui revient à dire que toutes les promesses de Dieu, y compris sa promesse de guérir, n'existent et ne sont efficaces que grâce à la seule œuvre rédemptrice de Christ. La guérison n'est pas réservée à l'époque du millénium. Certains pasteurs s'efforcent de reléguer la guérison du corps à l'époque du jour du millénium, mais Jésus a dit, aujourd'hui et pas au jour du millénium, cette parole de l'Écriture, que vous venez d'entendre, est accomplie. C'est au sein de l'Église, et pas pendant le millénium, que Dieu a établi des docteurs, accompli des miracles, accordé des dons de guérison, etc. Au cours du millénium, personne dans l'Église n'aura besoin de guérison, parce que nous recevrons tous des corps glorifiés avant le millénium, lorsque nous partirons à la rencontre du Seigneur dans les airs, et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité. S'il nous fallait reléguer la guérison à l'époque du millénium, nous devrions en faire autant pour ce qui concerne les docteurs, que Dieu a établi dans l'Église, ainsi que pour les dons de guérison. Dire que la guérison est réservée au millénium revient à dire que nous sommes déjà maintenant dans le millénium, parce que Dieu guérit des multitudes aujourd'hui. Dieu promet à tous de répandre son Saint-Esprit sur toute chair au cours de l'année de grâce du Seigneur, c'est-à-dire la dispensation du Saint-Esprit. Il vient pour accomplir en notre faveur toutes les bénédictions de la rédemption, pour nous donner les prémices de notre héritage spirituel et physique, jusqu'à ce que le dernier ennemi, c'est-à-dire la mort, soit détruit, et que nous soyons ainsi introduits dans la plénitude de notre héritage. Page 19. La foi vient de ce que l'on entend. La raison pour laquelle tant de malades, aujourd'hui, ne récupèrent pas leur héritage physique, et qu'ils n'ont pas entendu la trompette le proclamer. La foi vient de ce que l'on entend, et ils n'ont pas entendu. Parce que de nombreux pasteurs ont détraqué leur trompette pendant qu'ils étaient dans leur école biblique. Ceci me rappelle l'histoire d'un homme que j'ai connu, et qui jouait du trombone dans un orchestre de cuivre. Au début d'une répétition, des gamins avaient introduit un petit clou dans l'embouchure de son instrument. Lorsqu'il soufflait, l'air repoussait la tête du clou à l'intérieur du trombone, ce qui ne lui permettait pas de produire un son bien net. Mais il continua à jouer pendant toute la répétition, sans s'apercevoir du problème. Certains prédicateurs sont comme cet homme. Ils soufflent bien dans la trompette de l'Évangile, mais ils ne se rendent pas compte qu'ils ne produisent que la moitié du son qu'ils devraient produire. Comme le dit Paul, ils ne donnent pas tout le conseil de Dieu. De même que dans le Lévitique nous voyons que la guérison était invariablement obtenue en raison d'une expiation, de même, Matthieu 8, 17 déclare nettement que Christ a guéri toutes les maladies en raison de son expiation. Il guérit tous les malades afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Isaïe le prophète. Il a pris nos infirmités et il s'est chargé de nos maladies. Puisqu'il a porté nos maladies et que son expiation s'étend à nous tous, il serait donc nécessaire que tous soient guéris pour que s'accomplisse cette prophétie. Jésus guérit toujours aujourd'hui tous ceux qui viennent à lui avec une foi vivante, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé, puisqu'à cette époque plus enténébrée tous avaient le privilège d'être guéris, certainement, dans cette meilleure dispensation, qui comporte une meilleure alliance et de meilleures promesses. Dieu n'a pas retiré la miséricorde dont il avait fait preuve dans l'Ancien Testament. Si cela avait été le cas, cela signifierait que nous en aurions été privés par la venue de Christ et par son expiation. Dans Nombre 16, 46-50, lorsque 14 700 personnes périrent de la plaie, Aaron en tant que sacrificateur, dans son ministère de page 20. Médiation se tint en faveur du peuple, entre les morts et les vivants, et il fit une expiation pour que la plaie soit ôtée et que les malades soient guéris. Ainsi, Christ, notre médiateur, nous a rachetés par son expiation de la plaie, du péché et de la maladie. Le type du serpent d'airain, nous lisons encore, dans Nombre 21, 9, que les Israélites étaient tous guéris lorsqu'ils regardaient le serpent d'airain, qui avait été élevé, et qui était un type d'expiation. Si la guérison n'est pas comprise dans l'expiation de Jésus, pourquoi ces Israélites mourants devaient-ils regarder à cette préfiguration de l'expiation de Christ pour recevoir la guérison de leur corps? Puisque le pardon et la guérison leur étaient donnés au travers d'une préfiguration de l'expiation, pourquoi ne nous serait-il pas donné au travers de l'expiation de Christ lui-même? De même que leur malédiction a été ôtée quand le serpent d'airain a été élevé, ainsi, Paul nous dit que notre malédiction a été ôtée lorsque Christ a été élevé. Galates 3, 13. Dans Job 33, 24-25, Nous lisons encore, j'ai trouvé une rançon, une expiation. Et sa chair a plus de fraîcheur qu'au premier âge, il revient au jour de sa jeunesse. Nous voyons ici que la chair de Job a été guérie par le moyen d'une expiation. Pourquoi notre chair ne le serait-elle pas? David commence le psaume 103 en demandant à son âme de bénir l'Éternel et de « n'oublier aucun de ses bienfaits ». Puis il précise « c'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies ». Comment Dieu pardonne-t-il le péché? Évidemment, par l'expiation de Christ. Il guérit la maladie de la même manière, parce que l'expiation de Christ est l'unique moyen par lequel l'homme déchu puisse recevoir n'importe quelle bénédiction divine. Comment Dieu pourrait-il sauver l'homme tout entier si ce n'est par l'expiation de Christ? Dans 1 Corinthiens 10, 11, Paul nous dit que « ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple, et elles ont été écrites pour notre instruction à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles ». Dans Galates 3, 7, 16, 29, le Saint-Esprit nous montre clairement que c'est page 21. Choses sont pour les païens tout comme pour Israël. Reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi, qui sont fils d'Abraham. Or les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité, et si vous les païens êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Nous ne sommes donc plus des étrangers, mais des concitoyens des saints dans la maison de Dieu. Les sept noms rédempteurs de Yahweh pour moi, un autre argument décisif prouvant que la guérison est comprise dans l'expiation de Christ, peut être trouvé dans les sept noms rédempteurs de Dieu. Dans sa Bible, Scofield a rédigé une note sur ces noms rédempteurs. Il dit que le nom de Dieu, Yahweh, est sans aucun doute le nom rédempteur du Seigneur, car il signifie « celui qui existe par lui-même et qui se révèle ». Selon lui, ces sept noms rédempteurs ont été choisis parce qu'ils révèlent progressivement et de mieux en mieux la nature de Dieu. Puis il ajoute, dans sa relation rédemptrice avec l'homme, Yahweh possède sept noms composés, qui le révèlent comme celui qui satisfait tous les besoins de l'homme dans sa condition déchue. Puisque ces noms révèlent une relation rédemptrice entre Dieu et les hommes, chacun d'eux doit faire référence au calvaire, lieu de notre rédemption. Et les bénédictions que chaque nom révèle doivent être obtenues au travers de l'expiation. C'est ce que les Écritures enseignent clairement. Voici quels sont les sept noms rédempteurs de Dieu. 1. Yahweh Shammah, Ézéchiel 48, 35, l'Éternel est ici ou présent. Ce nom nous révèle le privilège de jouir de sa présence, privilège acquis par la rédemption. Il a dit, voici, je suis toujours avec vous. La preuve que cette bénédiction nous est accordée par l'expiation se trouve dans le fait que nous avons été rapprochés par le sang de Christ. 2. Yahweh Shalom, Juge 6, 24, l'Éternel notre paix. Ce nom nous révèle le privilège d'avoir sa paix, privilège acquis par la rédemption. C'est pourquoi Jésus dit, « Je vous laisse ma paix ». Cette bénédiction est comprise dans l'expiation, parce que, le... Page 22. Châtiment qui nous procure la paix est tombé sur lui, lorsqu'il a fait la paix, par le sang de sa croix. 3. Yahweh Rahab, psaume 23, 1, l'Éternel est mon berger. Il est devenu notre berger en donnant, sa vie pour ses brebis. Ce privilège nous a donc aussi été acquis par la rédemption. 4. Yahweh Jire, Genèse 22, 14, l'Éternel pourvoira. Le Seigneur a pourvu une offrande. Christ est l'offrande livrée pour notre complète rédemption. 5. Yahweh Nissi, Exode 17, 15, l'Éternel est notre bannière ou notre vainqueur, notre chef. Par la croix, Christ a triomphé des principautés et des dominations. C'est là qu'il a acquis pour nous, par son expiation, le privilège rédempteur de pouvoir dire « Grâce soit rendue à Dieu, qui nous donne la victoire, par notre Seigneur Jésus-Christ ». 6. Yahweh Tzidkanu, Jérémie 33, 16, l'Éternel notre justice. Il est devenu notre justice en portant nos péchés sur la croix. Nous possédons donc, par la rédemption, la bénédiction et le privilège de recevoir le « don de la justice ». Le Seigneur est notre médecin 7. Yahweh Rapha, Exode 15, 26, « Je suis l'Éternel qui te guérit ». Ce nom est donné pour nous révéler le privilège, acquis par la rédemption, de recevoir la guérison. Ce privilège nous a été obtenu par l'expiation de Christ, car Esaïe, dans son chapitre 53 consacré à la rédemption, déclare dans la version originale, « Il s'est chargé de nos maladies, et a porté sur lui nos douleurs ». J'ai préféré parler de ce nom en dernier, pour les besoins de ma démonstration. Il faut remarquer que la toute première alliance que Dieu a conclue avec son peuple, après le passage de la mer Rouge, qui préfigure tellement bien notre rédemption, était une alliance de guérison. C'est à ce moment-là que Dieu s'est révélé comme celui qui est notre médecin. Par ce tout premier nom rédempteur qui scellait l'alliance, je suis l'Éternel qui te guérit. Ceci n'est pas seulement une promesse, c'est une loi et une ordonnance. Parallèlement à cette antique ordonnance, nous trouvons, dans le commandement donné, page 23, par Jacques 5, 14, une ordonnance formelle, pour la guérison au nom de Jésus-Christ. Chaque église doit considérer cette ordonnance comme aussi sacrée et aussi obligatoire à observer que la Sainte Cène et le baptême chrétien. Étant donné que Yahweh Rapha est l'un des sept noms rédempteurs, qui scelle l'alliance de guérison, Christ, dans sa position glorifiée actuelle, ne peut pas plus abandonner son ministère de guérison, qu'il ne peut abandonner les ministères révélés par chacun des six autres noms rédempteurs. Les bénédictions révélées par ces sept noms rédempteurs seraient-elles absentes de notre dispensation, qualifiée de « meilleure » Après avoir considéré certains exemples qui préfiguraient l'expiation de Christ, considérons la rédemption elle-même, telle qu'elle est décrite dans ce grand chapitre 53 du prophète Osaïe, qui décrit cette rédemption. C'est le plus grand des chapitres du plus grand des prophètes, qui établit pleinement la doctrine de l'expiation.